Bien, on va commencer. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être venus au Bijou à l'invitation de l'Université Populaire de Toulouse pour parler avec Michael Louis d'écosocialisme. Alors, donc première info, Michael Louis, ce n'est pas moi, c'est le monsieur qui est à ma gauche. Voilà, pour ceux qui faisaient déjà des paris dans la salle. Moi, pourquoi je suis là, à vrai dire, je me pose la question moi-même, puisque j'ai dû dire une fois à Stella que je triais mes cartons et mes papiers d'avec les autres déchets ménagers, et j'ai dû être catalogué comme écolo depuis ce jour-là. Et donc voilà pourquoi je suis là. On s'est dit éco-socialisme, ça doit provenir d'écologie. Effectivement, le terme éco-socialisme vient du préfixe écologie et du suffixe socialisme. Alors j'ai regardé par curiosité sur le seul dictionnaire que j'avais chez moi, qui est un petit Robert illustré 96, donc ça date un peu, puisqu'il n'y avait pas écosocialisme, mais il y avait quand même écologie et socialisme. Et ça m'a donné une définition de l'écosocialisme. Donc pour l'écologie, c'est une doctrine qui vise à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à une préservation de ce dernier. Donc ce dernier, c'est pas l'homme, c'est son environnement. Et le socialisme, ça tombe bien, c'est une doctrine aussi, ou courant politique, qui vise à faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers au moyen d'une organisation concertée. Là, vous mettez les deux ensemble et vous avez la doctrine qui vise à faire prévaloir l'intérêt général avec la préservation de l'environnement. Voilà, alors... pour moi, qu'est-ce que c'est l'écosocialisme ? C'est encore une doctrine, en fait, ou un mouvement politique qui a une triple exigence, en fait. Cette triple exigence, c'est une exigence démocratique, une exigence de démocratie radicale et réelle, pas une démocratie comme on peut la connaître dans les pays, entre guillemets, démocratiques qu'on cite généralement, une exigence de justice sociale et une exigence qui serait une réponse soit à la hauteur des enjeux environnementaux qu'on connaît actuellement. Et ce qui est intéressant, dans le concept d'écosocialisme, en tout cas, moi, comme je l'ai lu dans les textes, par exemple, de Michael Lewis ou d'autres textes, c'est que ces trois concepts, démocratie, socialisme, écologie, dans l'écosocialisme, sont à la fois des objectifs, des buts à atteindre, et des moyens pour atteindre ces objectifs. Donc, à chaque fois... quand on va tirer un point, par exemple, un problème écologique, on va vite s'apercevoir que pour répondre à cette question, il va falloir mettre en place une démocratie réelle et mettre en place des mesures sociales. Voilà. Donc pour présenter rapidement Michael Lewis est un chercheur CNRS, qui issu de l'école des hautes études en sciences sociales, voilà, et qui est aussi co-auteur, par exemple, du manifeste écosocialiste international. Il est l'auteur aussi d'un petit bouquin que je vous conseille, bien entendu, qui s'appelle « Écosocialisme, l'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste ». Voilà, donc moi, je l'ai rencontré l'année dernière lors d'une formation sur l'écosocialisme, tiens, par hasard, où j'ai trouvé quelqu'un en fait de très clair, moi qui ne suis pas du tout professionnel du marxisme en fait, voilà, parce que j'ai jamais lu ni Marx dans le texte ni les marxistes, j'ai trouvé à chaque fois ces topos très limpides et très drôles en plus. Donc merci de faire une ovation à monsieur Michael Lewis pour se topper sur l'écosocialisme.
Eh bien, merci beaucoup à l'Université Populaire de Toulouse de m'avoir invité. Vous m'entendez là au dernier rang ? Je ne suis pas sûr que je vais être très drôle ce soir, parce que le sujet n'est pas toujours drôle, mais bon, on verra. En tout cas, je suis très content d'être là avec vous. C'est la première fois que je parle dans un Bijou. Ça, c'est aussi une expérience nouvelle. Bien. Alors, Gramsci, le célèbre marxiste italien, qui n'était pas un socialiste, Il avait dit une fois qu'un révolutionnaire ou un marxiste doit savoir combiner le pessimisme de la raison avec l'optimisme de la volonté. Alors, je vais diviser mon topo en deux parties. Je vais commencer avec le pessimisme de la raison. D'accord ? Après, on va voir où on peut trouver l'optimisme de la volonté. Alors, le pessimisme de la raison, c'est analyser rapidement la crise écologique qui a déjà commencé et qu'est-ce qui risque de se passer dans les prochaines décennies. Bon, nous savons tous que nous sommes en pleine crise écologique qui a beaucoup de manifestations, toutes les plus inquiétantes les unes que les autres. La disparition des espèces vivantes, par exemple, de la biodiversité. Par exemple, des abeilles. On sait que le jour où les abeilles sont en train de baisser dangereusement. Si les abeilles disparaissent, on n'aura plus ni de fruits ni de légumes. Ça dépend de la pollinisation des abeilles. Etc. Bon, la liste est très longue. Je vais aller directement au danger principal, qui est le changement climatique. Au réchauffement global. Alors là, c'est vraiment très inquiétant parce que qu'est-ce qui risque de se passer si la température de la planète monte au-dessus de 10 degrés de plus par rapport à ce qu'il était il y a quelques dizaines d'années. Bon, il risque de se déclencher un processus de plus en plus accéléré et à partir d'un certain moment irréversible de changement climatique avec des conséquences dramatiques. Dramatiques parce que des choses qu'on n'a pas vues dans la planète depuis probablement des millions d'années. Il faut aller à une autre époque géologique pour trouver des manifestations analogues. Par exemple, la désertification, avec la montée de la température, à partir d'un certain moment, la désertification. Certains scientifiques ont calculé que le désert du Sahara arriverait jusqu'aux portes de Rome, par exemple, l'Europe du Sud, et encore plus inquiétant, la montée des eaux, parce que l'augmentation de la température provoquera la fusion des glaces polaires du Groenland au nord et de l'Antarctique au sud. Processus qui a déjà commencé, mais à une échelle limitée, mais à partir d'un certain moment, ça prendra des proportions beaucoup plus grandes, et à ce moment-là, on va assister à une montée significative du niveau de la mer. Ça peut arriver à un mètre ou même peut-être quelques mètres. Et si ça arrive, par exemple, si le niveau de la mer augmente de 1 mètre, par exemple, eh bien, le principal ville de la civilisation humaine, je ne sais pas, Amsterdam, Londres, Venise, Hong Kong, Rio de Janeiro, etc., etc., Londres, bon, risque d'être sous la mer. Ouais, un peu le type de chose qui peut arriver. Bon, il y a encore pas longtemps, on prévoyait que ces choses pourraient arriver vers la fin du siècle, vers 2100. Et on disait, les enfants de nos petits-enfants vont souffrir terriblement. Mais c'est difficile pour quelqu'un de se mobiliser pour les enfants de ses petits-enfants qu'il ne connaît pas. Bon, donc c'est un peu abstrait. Mais maintenant, les scientifiques, je ne parle pas du GIEC, parce que le GIEC c'est une autre affaire, mais les scientifiques plus en pointe, comme James Hansen, aux États-Unis, le climatologue de la NASA, nous dit que ces choses risquent d'arriver dans les prochaines décennies. Ça, c'est évidemment, personne ne peut prévoir combien de décennies, évidemment, mais c'est des choses qui se rapprochent. Donc, c'est pas le futur génération, c'est les générations qui vivent maintenant, surtout les jeunes, qui risquent de connaître ces types de catastrophes. Bon, donc, il faut, à mon avis, se libérer de certaines conceptions superficielles qui circulent beaucoup dans les médias. Par exemple, il faut sauver la planète, ça ne veut rien dire, la planète n'est pas en danger, hein, elle continue à tourner tranquillement autour du Soleil. Ce qui est en danger, c'est la vie sur la planète, et notamment la vie de notre espèce. C'est ça qui est en danger. Bon. Et puis, comme je disais, il faut arrêter de parler de l'année 2100. Malheureusement, ce n'est pas 2100. Les échéances sont beaucoup plus proches. Et, bon, etc. Donc, je pense qu'il faut prendre conscience de cette crise économique. Comme je dis, a déjà commencé. Les premières manifestations sont déjà présentes. Ce qu'on appelle la intensification des catastrophes naturelles, les cyclones, etc. Bon, tout ça fait partie du processus de réchauffement, des changements climatiques. Bon, voilà où nous en sommes. Bon, maintenant, se pose la question, à qui la faute, hein? À qui la faute de ces menaces sans précédent, disons, pour l'humanité, pour la civilisation humaine. Eh bien, les scientifiques nous disent c'est la faute aux êtres humains, hein, à l'humanité. Ce n'est pas un phénomène naturel. Ce n'est pas de tâches du soleil, comme on disait encore il y a quelques années. Ce n'est pas des changements saisonniers normaux. Il y a quelques années, il y avait encore des tas d'explications qui circulaient. Non, tout ça, c'est maintenant écarté. Il y a un consensus écrasant parmi les scientifiques pour dire que ces changements climatiques sont causés par l'action humaine. Certains géologues parlent même de l'anthropocène, une nouvelle ère géologique où l'être humain, l'anthropos, est le principal facteur géologique. Bon, mais ça veut dire quoi? Que c'est les activités productives, notamment industrielles, mais aussi les types d'agriculture humaine, qui provoquent des émissions de gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère depuis très longtemps, depuis deux siècles, et qui provoquent le réchauffement global. Ça, c'est la réponse des scientifiques, qui est scientifiquement juste, mais politiquement un peu courte. Pourquoi ? Parce que l'être humain vit sur la planète depuis, je ne sais pas, quelques dizaines de milliers d'années au moins, et l'accumulation de gaz à effet de serre et les changements climatiques datent de la révolution industrielle, il y a deux siècles, et s'est intensifié considérablement dans les dernières décennies, avec la globalisation néolibérale. Donc, la réponse politique, c'est oui, c'est des facteurs humains qui sont les responsables, mais plus concrètement, c'est le système capitaliste, c'est la civilisation capitaliste, industrielle, occidentale, moderne, qui est la responsable du changement climatique. Voilà, c'est ça, je pense, la conclusion claire à laquelle il faut aboutir si on examine, disons, le tableau qui montre comment et à partir du temps ce phénomène a commencé. Bien. Alors, face à ces dangers, que propose le responsable, hein, c'est-à-dire les gouvernements, les responsables du système, hein. Eh bien, ils sont pratiquement tous d'accord qu'il y a danger dans la maison, qu'il faut tout faire pour éviter que le réchauffement dépasse les 2%, les 2 degrés, pardon. Et ils se sont tous mis d'accord qu'il était extrêmement urgent d'attendre. Hein, et de ne pas faire grand-chose. C'est ça les résultats de dites conférences internationales qui ont lieu dans différents endroits, Copenhague, Durban, Rio de Janeiro, Doha, etc. Bon, ces succès de conférences internationales sur le climat. On discute, il y a un consensus, oui, effectivement, il y a danger, et rien. Hein, il n'en sort rien de concret. On décide que l'année prochaine, on va se revoir, et effectivement, là, on va décider, etc. C'est extrêmement inquiétant. Alors, pourquoi cette attitude? Est-ce que c'est la bêtise? Est-ce que c'est l'ignorance? Bon, il y a de tout ça, mais je pense que le problème est plus profond. Il y a un problème systémique. Hein, bien, c'est la nature du système capitaliste qui ne permet pas d'envisager les changements urgents et profonds qui seraient nécessaires pour empêcher la catastrophe. Et en lisant ce que disent les responsables ou que disent les banquiers ou les industriels ou ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie fossile, hein, c'est-à-dire les gens, les grandes multinationales du pétrole, du gaz, du charbon, de la production des voitures qui circulent avec le pétrole, enfin tout cet ensemble gigantesque, très puissant. Bon, en lisant ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils écrivent, et surtout ce qu'ils ne disent pas, on a clairement l'impression que leur attitude, c'est exactement celle attribuée à Louis XIV, Louis XV, je me rappelle, qui disait « Après moi, les déluges hein? ». Après moi, les déluges. C'est-à-dire maintenant, moi, industriel, moi, banquier, je m'occupe de mes marges de profit, de ma compétitivité, etc., etc. Et bon, bah, les restes, on verra après. Hein? Voilà, c'est ça l'attitude. Après moi, les déluges. Et malheureusement, c'est les déluges qui nous attendent. Hein? Les déluges tels qu'il est décrit dans la Bible, sauf que ce n'est pas Dieu qui nous les envoie, c'est le capital. Hein? C'est-à-dire la montée des eaux et l'inondation des villes humaines. Bon, voilà, donc il n'y a pas, pas de réponse. Bon, parmi le scénario envisagé, il faut mentionner quand même un scénario très intéressant proposé par le Pentagone. Hein? Quelqu'un a fuité vers la presse un document interne du Pentagone, il y a quelques années, qui disait la chose suivante. Qu'est-ce qu'on fait si, à cause du changement climatique, la planète devient invivable pour l'espèce humaine? Donc, considérez cette hypothèse comme sérieuse. Eh bien, très simple, on va envoyer une fusée interplanétaire vers la planète Mars. Et dans cette fusée prendront place les présidents des États-Unis, les gouvernements américains, l'état-major de l'armée, quelques scientifiques, quelques banquiers, entrepreneurs, directeurs de journaux, etc. Alors, comme nous ne sommes pas invités à ces voyages, ce n'est pas une proposition qui nous intéresse beaucoup. Donc, je cite simplement l'exemple pour montrer un certain état d'esprit de nos responsables. Donc, les problèmes, comme je disais, c'est à avoir avec la nature du système capitaliste. Et le système capitaliste ne peut pas exister sans expansion permanente, sans accumulation permanente, sans croissance, entre guillemets, permanente. Tout ça, c'est dans Marx. Hein? Musée le capital, c'est un thème qui revient dans tous les chapitres. Bon. Le capitalisme ne peut pas exister sans ce processus d'accumulation et d'expansion permanente et limitée. C'est ça, la logique du système. Bon, elle ne peut que conduire à la destruction inéluctable des équilibres écologiques de l'environnement. C'est dans sa nature, dans son DNA. Et chaque capitaliste lui-même agit rationnellement en fonction de ses intérêts, hein, de son entreprise, de sa banque, etc., qui lui dit que pour faire du profit, il faut, etc., élargir les affaires, produire plus en plus de marchandises, plus intensifier la consommation, etc. Ça fait partie de la rationalité étroite du système capitaliste qui est irrationnel globalement, mais au niveau de chaque entreprise, c'est très rationnel, il a fait les calculs, comment je vais faire pour gagner plus. C'est tout à fait logique. Voilà, donc, voilà mon premier chapitre, hein, le pessimisme de la volonté. La situation est grave, elle risque de s'aggraver considérablement dans les prochaines années. Et nos responsables font tout pour que ça continue. Hein? C'est-à-dire, il y a une expression pour ça, business as usual. Hein? C'est-à-dire, pendant le réchauffement global, les affaires continuent, comme d'habitude. Voilà où nous en sommes. Et donc, il a de quoi être inquiet. Hein? Voilà. Donc, pourquoi je parle de pessimisme de la raison. Bon, mais on ne va pas se limiter à ça. Hein? Parce que je vais quand même, suivant les conseils de Antonio Gramsci, je passe à l'optimisme de la volonté. Ça, c'est l'autre aspect de la conception du monde du révolutionnaire. Bon. Alors, l'optimisme de la volonté, c'est l'écosocialisme. Il y a une alternative à la catastrophe que nous prépare le capitalisme, une alternative qui ne peut être que anticapitaliste, antisystémique. Bon, alors, c'est quoi l'écosocialisme? C'est à la fois une doctrine, comme l'a dit notre ami Clément, mais aussi un ensemble de pratiques, un ensemble, qui vise à associer la critique écologique du productivisme avec la critique marxiste, socialiste, du capitalisme. Donc c'est à la fois un socialisme antiproductiviste et une écologie anticapitaliste. C'est cette synthèse qu'on cherche à travers l'éco-social. Ça implique aussi une critique des formes productivistes du socialisme qui ont dominé pendant l'histoire du socialisme au XXe siècle, aussi bien sous sa forme social-démocrate que sous sa forme stalinienne. L'Union soviétique est un exemple assez désastreux du point de vue écologique. Bon, donc, il s'agit de faire un bilan critique de ces formes productivistes qui s'est réclamé du socialisme, et en même temps une critique des formes dominantes de l'écologie qui ne posent pas la question du capitalisme, qui pensent qu'elles peuvent affronter les problèmes écologiques de façon compatible avec le marché, entre guillemets, c'est-à-dire avec le capitalisme. Donc il y a un double travail de critique, c'est un cas d'autocritique, la formulation du projet éco-socialiste. Alors, la plupart des éco-socialistes se réclament de Marx, c'est mon cas aussi. Donc, disons deux trois mots sur Marx par rapport à l'éco-socialisme. Alors, les écologistes non-marxistes, ou ex-marxistes, comme Alain Lepiède, pour citer son nom, prétendent que Marx était productiviste. Bon, je pense que cette accusation est injuste, puisque Marx a insisté, de façon tout à fait explicite, que l'important du point de vue du socialisme, ce n'est pas l'avoir, la possession de biens, de marchandises, etc., mais l'être, la manifestation de potentialité humaine. Et ce n'est pas un hasard que Marx insistait dans le Capital que le début du règne de la liberté, c'est la réduction de la journée de travail, c'est-à-dire les temps libres, libres pour la manifestation de désir et de capacité humaine. Bon, donc l'idée de la production pour la production est étrangère à la pensée de Marx. Deuxième aspect important chez Marx, il y a dans certains de ses écrits, pas développés, mais ça apparaît de façon claire, l'intuition que le capitalisme, c'est pas non seulement l'exploitation du travailleur, mais la destruction de l'environnement. La destruction de l'environnement, notamment, l'exemple qu'il donne, c'est la destruction de forêts, la stérilité du sol, etc. Donc, c'est un thème qui apparaît, donc il y a cette perception. Et aussi, parfois, dans certains textes, l'idée que le socialisme implique un rapport différent à l'environnement, à la terre, que celui du capital. Et il y a un texte, notamment dans le Capital, qui est très intéressant, où il parle de l'agriculture capitaliste aux États-Unis, et il dit chaque progrès de l'agriculture industrielle capitaliste est un progrès dans la destruction de la terre, de la fertilité de la terre, etc. Donc il y a cette idée très dialectique, profonde, il y a un progrès destructif. Le capitalisme, c'est un progrès destructif. Le progrès prend dans le capitalisme la forme de la destruction, notamment de l'environnement. Mais il faut le dire, ce n'est pas un thème central dans la débat, ce n'est pas un thème développé, ce n'est pas un thème systématisé. Ce sont des intuitions, ce sont des hypothèses, ce sont des suggestions qui apparaissent et qui montrent qu'il y avait, disons, déjà une certaine sensibilité, une certaine intuition. Mais évidemment, ce n'est pas un thème central dans la pensée de Marx, parce qu'entre autres, parce que la destruction de l'environnement était encore à ses débuts, hein, loin d'avoir atteint le niveau catastrophique que nous connaissons aujourd'hui. Bon. Maintenant, cela dit, il y a chez Marx, mais encore plus chez Engels, et encore plus dans le marxisme postérieur, une certaine vision de la révolution socialiste que nous devons, en tant qu'éco-socialistes, mettre en question. Il s'agit de l'idée qui apparaît effectivement dans les textes de Marx, dans l'anti-Düring, etc., selon laquelle les rapports de production capitaliste sont devenus des entraves, des obstacles au libre développement des forces productives créées par ce même capitalisme. Le capitalisme a créé des forces productives qui sont à l'étroit maintenant dans cette enveloppe qui sont les rapports de production capitalistes. Les rapports de production capitalistes sont devenus des chaînes qui empêchent le libre développement des forces productives créées par le système. Et donc, le rôle de la révolution socialiste, c'est de supprimer ces rapports de production capitalistes, les remplacer par rapport de production socialiste, la propriété collective, les moyens de production, etc., etc. Donc ça, c'est une idée qui apparaît, effectivement, qui marche derrière, que, je dis, nous devons critiquer. Pourquoi ? Parce que, à la lumière de l'analyse écologique, nous sommes conscients qu'il faut changer radicalement non seulement les rapports de production, évidemment, la propriété privée, mais les forces productives elles-mêmes. Les forces productives créées par le capitalisme, celles que nous connaissons, fondées sur les sources d'énergie qui sont le charbon, le pétrole, le gaz, etc., l'énergie nucléaire, c'est d'autres catastrophes. Les types d'agriculture industrielle, etc. Bon, tout ça, c'est destructeur de l'environnement. Tout ça est en train de nous conduire à la catastrophe. Donc, c'est l'appareil, c'est les forces productives elles-mêmes qui doivent être mises en question et transformées radicalement. Je pense qu'il faut appliquer à l'appareil productif ce que Marx disait dans les textes sur la Commune de Paris sur l'appareil d'État. Marx disait sur l'appareil d'État. Les travailleurs ne peuvent pas s'approprier de l'appareil d'État bourgeois. Il faut le casser, le détruire et le remplacer par un autre type de pouvoir, le pouvoir démocratique des travailleurs, etc. Donc je pense que le même raisonnement s'applique, Boutakis-Boutandis, à l'appareil productif capitaliste. Ça ne veut dire, pas dire qu'on va tout casser, hein, encore qu'il y a certaines choses qu'on veut envoyer à la casse, les centrales nucléaires, les centrales de charbon, etc. Mais, en tout cas, il y a une transformation radicale à développer dans un processus de transition à l'éco-socialisme. Donc, l'appareil productif lui-même, à commencer par les sources d'énergie, remplacer les sources fossiles par les sources renouvelables, etc., etc. Mais, en fait, il faut aller plus loin, parce qu'il n'y a pas que le rapport de production et les forces productives qu'il faut changer, il faut changer aussi les types de consommation. Le modèle de consommation du capitalisme est insoutenable. Il est fondé sur un gaspillage phénoménal de ressources et sur la consommation donc d'électricité, donc de pétrole, etc. Bon. Par exemple, un des aspects essentiels du système de production et consommation capitaliste, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je vais donner un exemple que tout le monde connaît. Les frigos de ma grand-mère durer 40 ans. Les frigos qu'on achète aujourd'hui sont programmés pour casser après 5 ans. Bon, ce qui est tout à fait rationnel du point de vue du capitaliste qui produit des frigos. C'est très mauvaise affaire de produire des frigos qui durent 40 ans. C'est beaucoup plus profitable de produire des frigos qui cassent après 5 ans. C'est tout à fait logique, ça. Et ça ne s'applique pas simplement au frigo, mais à la plupart de biens. Hein. Donc, l'obsolescence programmée, c'est inhérent au système capitaliste. Et elle se développe de plus en plus avec un gaspillage phénoménal de ressources, d'énergie, etc. L'autre chose, c'est la publicité. La publicité elle-même gaspille énormément de papier, de etc. Mais aussi, elle induit une consommation obsessive, en matraquant les gens jour et nuit, constamment, acheter, consommer. Bon, tout ça crée un modèle de consommation qui est insoutenable. Donc, il faut penser à un changement profond, hein, du modèle de consommation. Et il faut penser à changer aussi le mode de transport, d'abord de marchandises, supprimer le transport par camion qui est complètement absurde du point de vue social et du point de vue écologique, mais qui est rentable, compétitif du point de vue capitaliste. Et aussi changer le mode de transport des personnes, hein, réduire la place de la voiture et développer en large échelle les transports publics, gratuits, l'espace pour les piétons, pour les bicyclettes, etc. Donc, ça aussi. Bref, il faut changer le mode de vie. C'est ça. Il faut changer le mode de vie. Il faut penser à un autre modèle de civilisation alternative à la civilisation capitaliste, industrielle, bourgeoise, moderne. Donc, c'est voilà l'enjeu donc, d'une transformation éco-socialiste. Bien. Alors, l'instrument essentiel dans ce processus de changement, c'est ce que nous appelons planification démocratique éco-socialiste. Bon, l'idée de planification, c'est une idée marxiste classique, hein, contre laquelle on argumente en pointant du doigt l'exemple soviétique. Hein. Regardez le désastre. Bon, nous répondons simplement que l'exemple soviétique montre effectivement qu'une planification autoritaire, bureaucratique, imposée de haut en bas de façon dictatoriale et en utilisant le même appareil productif que l'Occident, une copie conforme, effectivement c'est désastreux du point de vue social, politique, écologique, etc. Mais bon, c'est justement c'est ce que nous ne voulons pas. Ce que nous proposons, c'est autre chose, une planification éco-socialiste démocratique, c'est-à-dire où les décisions sur qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on consomme, quelles sont les priorités, les investissements, etc., etc., sont prises démocratiquement par toute la population concernée. Ce n'est pas un bureau politique, ce n'est pas une commission du plan, ce n'est pas le marché simplement, encore il y a une place pour le marché. Mais c'est les gens eux-mêmes qui vont décider. Par exemple, est-ce qu'on va fermer les centrales nucléaires ou pas? Est-ce qu'on va décider que les transports publics sont gratuits ou pas? Etc. etc. C'est les gens eux-mêmes qui vont décider ça. Après un débat démocratique où il y a différents points de vue qui s'affrontent, par une espèce de référendum pour les grandes questions de société, et ensuite il y aura des élus, des délégués, n'importe comment on les appelle, qui vont se charger de l'administratif, etc. Bon, voilà un peu, très très schématiquement, l'idée de la planification démocratique éco-socialiste et une planification dont l'objectif c'est de produire non des marchandises, même si ça passe par le marché, dans certaines mesures, mais de valeurs d'usage, une chose très différente. La marchandise, c'est quelque chose qu'on vend en fonction d'un profit, et peu importe si ça c'est utile ou inutile pour les gens. Et vous savez bien que beaucoup de marchandises sont non seulement inutiles, mais nuisibles. On peut faire une liste très grande de soi-disant biens qui sont inutiles ou nuisibles. Commencer par les sous-marins nucléaires, la liste est très longue. Bien. Donc, des valeurs d'usage, c'est-à-dire des choses qui sont utiles pour les gens et qui sont durables, qui peuvent être réparées, etc. Et donc c'est le premier critère de la planification démocratique et socialiste, c'est la production de valeurs d'usage et dans le respect de l'environnement. C'est ça le deux critères, pour, disons, combiner les deux critères, c'est les gens eux-mêmes qui vont décider comment il faut les combiner. Bien. Et la production de valeurs d'usage pour la satisfaction des vrais besoins sociaux, à commencer par le besoin qu'on appelle biblique, parce que c'était déjà dans la Bible. C'est-à-dire, il faut manger, boire, s'habiller et avoir un toit. Ça, évidemment, il faut ajouter l'éducation, la santé, etc., la culture. Et voilà. Alors, qui va décider quels sont les vrais besoins et quels sont les faux besoins? Parce qu'il y a les deux, les vrais et les faux. Alors, pour savoir quels sont les vrais et quels sont les faux, il y a une précondition. Il faut supprimer la publicité. C'est la publicité qui crée le faux besoin. Le matraquage publicitaire, matin et soir, du berceau au tombeau, dans la boîte à lettres, dans la rue, dans la télé, dans les journaux, il faut supprimer la publicité. C'est une première mesure de transition vers le socialisme. Bien. Et ensuite, peu à peu, les gens vont trouver quels sont leurs vrais besoins. C'est les gens eux-mêmes, personne qui va décider à leur place. Voilà. Donc, c'est ça le sens de la planification, la satisfaction des vrais besoins sociaux. Alors, quel est le rapport entre cette proposition éco-socialiste et le mouvement de la décroissance, qui est assez proche, c'est vraiment assez proche, mais il y a quelques différences. Alors, disons que ce qu'ils ont en commun, l'éco-socialisme et la décroissance, c'est une critique de l'idéologie de la capitalisme de la croissance, qui est plus qu'une idéologie, c'est une véritable religion. Les différents gouvernements n'arrêtent pas de prier à une divinité qui s'appelle croissance. Dieu de l'économie, envoie-nous la croissance. Et chacun prétend être celui qui a dans les grâces de cette divinité qui va faire venir la croissance. Bon, il y a toute heure, disons. Et l'idée fausse que la croissance va résoudre le problème économique, le chômage, la crise. Voilà, donc il y a une critique de la croissance qu'on partage, une critique du consumérisme, de l'idéologie de la consommation obsessive entretenue par le capitalisme, qui est très juste. Donc, il y a pas mal d'éléments communs entre l'écosocialisme et la décroissance. Alors, maintenant, le mouvement de la décroissance, il est assez hétérogène. Il y a, disons, une droite et une gauche. La droite, pour ne pas citer son nom, Serge Latouche, c'est quelqu'un qui dit le problème, ce n'est pas le capitalisme. C'est l'Occident, la philosophie des Lumières, la rationalité, je ne sais pas. L'Europe. Ou alors il dit, je ne veux pas parler du capitalisme parce que Marx en a déjà fait la critique, donc on parle d'autre chose. Ça va. Bien, donc, il y a cette partie-là de la décroissance, mais j'ajoute tout de suite que le Serge Latouche en question est en train de changer, puisque dans ce dernier livre, il commence à parler du capitalisme et même de l'éco-socialisme. Bon, on va voir si ça continue. Mais il y a un autre courant, déjà pas mal de temps, s'attaque au capitalisme. Donc c'est un courant anticapitaliste dans la décroissance. Par exemple, Paul Ariès, les gens du journal qui s'appelle la décroissance, etc. Bon, les gens qui s'intitulent objecteurs de croissance, bon, eux, ils sont anticapitalistes, et certains parlent même de socialisme, ils ne parlent pas d'éco-socialisme, mais pas de socialisme. Donc là, il y a quand même beaucoup plus de points. Notre principal désaccord avec le courant de la décroissance, c'est le terme lui-même, le concept de décroissance. Pourquoi ? Parce que ça donne l'idée que contre la croissance, on va faire le contraire. C'est-à-dire, les capitalistes veulent croître le PIB de 5% ou 10%, nous, on veut le réduire de 5 ou 10%. Or, nous, les écosocialistes, nous disons non. On ne veut pas une approche quantitative, de décroître à la place de croître. Nous voulons une approche sélective et qualitative. Ça veut dire quoi ? Que certaines branches de l'activité productive ou autre, on ne veut pas le réduire, on veut le supprimer. Par exemple, je dis la publicité, les centrales nucléaires, les centrales de charbon, les transports par camion, longue liste, hein, chose qu'on veut supprimer. D'autres, on veut réduire, on ne peut pas les supprimer. Par exemple, la circulation des voitures. On ne peut pas supprimer la voiture. On la réduit. Là, on peut parler de croissance. Et d'autres activités, on veut au contraire les développer beaucoup plus que maintenant. Par exemple, les énergies alternatives, le soleil, le vent, l'eau, etc. Par exemple, l'agriculture biologique à la place de l'agriculture industrielle capitaliste, etc., etc. Et l'éducation, et la santé, etc. Donc, il y a pas mal d'activités que je veux développer. On ne veut pas le réduire. Voilà, c'est ça la différence entre notre proposition et celle de décroissance. On est proche de plusieurs états, mais il y a quand même cette différence là, disons, dans la proposition. Bon, alors je dirais pour conclure l'optimisme de la volonté que cette proposition, cette perspective, cette vision écosocialiste, ah, j'ajouterai une chose, l'écosocialisme, on ne va pas l'attendre qu'il tombe du ciel, il ne va pas tomber du ciel, malheureusement, il faut le préparer dès maintenant, ici et maintenant. Il faut commencer par des luttes concrètes, immédiates, qui vont dans le bon sens. Que ce soit contre le gaz de schiste ou contre Notre-Dame-des-Landes, tout ça, c'est le pas dans la direction vers un changement. Mais il faut commencer déjà maintenant, ici, avec des mouvements de lutte concrète dans lesquels on essaie d'apporter notre contribution militante et aussi nos idées. En espérant que dans leur expérience pratique de lutte, les gens vont s'intéresser, disons, aux idées. Alors, tout ça, évidemment, implique un changement très radical, anticapitaliste, un changement non seulement dans le rapport de production juridique, etc., les formes de propriété, bien sûr, c'est absolument nécessaire, mais un changement de tout le modèle de civilisation, le mode de vie du capitalisme. Donc c'est quelque chose de très radical. Donc c'est une révolution, finalement. L'écosocialisme implique une révolution. Mais comment est-ce qu'on définit la révolution ? Alors là, j'aime citer une phrase d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Walter Benjamin. Alors, Walter Benjamin a écrit un peu avant sa mort, son suicide en 1940, pour échapper à la Gestapo, il s'est suicidé. Il a écrit un texte qui s'appelle Thèse sur le concept d'histoire, qui est un texte marxiste, assez sui generis, assez hétéroclite. C'est un texte marxiste. Mais il fait une critique à Marx. Il dit la chose suivante. Marx a écrit une fois que les révolutions sont la locomotive de l'histoire. Mais peut-être les choses sont un peu différentes. Peut-être que les révolutions sont l'humanité qui tire le frein d'urgence pour arrêter l'État. Je pense que c'est très actuel, ça, au début du XXIe siècle. Nous sommes tous le passager d'un train qui s'appelle civilisation industrielle capitaliste moderne occidentale. Ce train va à une rapidité croissante vers un abîme. Ça s'appelle changement climatique, catastrophe écologique. Donc il est urgent d'agir dans le sens d'une prévention pour arrêter ce train de suicide de la civilisation. C'est l'optimisme de la volonté. Merci.
Merci Michael. Donc maintenant je vous propose, comme Engels, de libérer les forces productives de la parole, qui étaient muselées jusqu'alors par le capitalisme, en participant à un débat. Voilà, donc vu que je suis bien placé pour voir les mains se lever, je vous propose de prendre les propositions d'intervention depuis là où je suis.
Hier, j'ai assisté à une autre réunion cousine avec laquelle j'étais un peu moins d'accord, qui était un jeune homme qui nous a présenté la notion.
C'est un peu sourd, dur d'oreille. Comment ?
Nous aussi, nous avons tendu l'oreille pour vous.
Je suis un peu plus vieux que toi.
Oui, mais vous parliez moins fort. Il se trouve qu'hier, j'ai assisté à une présentation d'un jeune homme qui parlait, lui, d'écologie profonde et qui se disait aussi. On a eu aussi la question avec lui de révolutionnaire réformiste. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours. On est de plus en plus d'accord sur le diagnostic. Et que ce soit par différents courants, on est en train de bien l'affiner. Mais après, c'est vrai que se pose toujours la question du comment. Comme vous l'avez dit, c'est la question d'un référentiel et d'une planification qui serait négociée. Mais se pose toujours la question de la bonne échelle. Et on voit bien que sur une petite échelle, sur un petit territoire, on arrive à mettre des choses très nobles en route. Mais que dès qu'on veut élargir, ça devient compliqué. Surtout qu'on a compris, la problématique, elle est mondiale. Et que donc, la bonne échelle à court terme, idéalement, ce serait une décision démocratique mondiale. Et là, vous comprenez que ça commence à devenir compliqué, effectivement, avec des niveaux d'éducation, de compréhension, etc., différents, comme on fait. Donc j'ai toujours envie d'y aller à fond dans toutes ces choses-là, mais sans arrêt, mon côté très pragmatique me fait dire... Oui, mais à quelle échelle, jusqu'à comment on arrive à ce que ce soit viable, sachant que l'enjeu est mondial.
Oui, vas-y, Benoît. On va parler tous ensemble, et après, peut-être que quand Michael, tu voudras intervenir.
Cinq questions,
et après, Michael. Merci, Benoît.
Alors moi j'ai une autre question sur un autre plan qui n'a pas forcément servi à tout le monde, mais vous dites que le capitalisme, en gros, son essence pour qu'il continue à fonctionner, c'est la croissance, c'est toujours plus d'accumulation de capital. Et ensuite vous dites, cette croissance, cette accumulation de capital se base sur une exploitation de l'environnement et de la nature toujours plus accrue. Moi, je voulais vous demander, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une croissance capitaliste, donc une accumulation de capital qui serait basée sur l'exploitation toujours accrue, non pas de ressources naturelles, mais par exemple de forces de travail humaines. Et dans ce cas-là, ça nous pose un problème dans cette approche parce que, du coup, on remet en cause le capitalisme pour sa destruction de l'environnement. Mais si le capitalisme arrive à s'en sortir sans détruire l'environnement, qu'est-ce qu'il nous reste pour remettre en cause le capitalisme qui continue à détruire nos vies tous les jours? Voilà,
d'accord.
Ça, c'est ma question.
Par exemple, mais il y a un groupe à Uppsala
qui prévoit le pic de production de pétrole entre 2010 et 2014. C'est d'accord. C'est-à-dire, après, il y en a plus. Ils disent prévoit 2030, moins 12% de production de pétrole. On entend très souvent qu'il y a beaucoup de charbon. Ils ont regardé ça, ils ont dit production maximale, pic de production de charbon, 2040. C'est proche. Et moi, je suis inquiet par les retombées économiques. Je pense qu'on va avoir une grande récession parce qu'il va y avoir un grand nombre de boulots qui vont disparaître. Et je pense qu'il va y avoir des problèmes de transition. Et donc, je voudrais savoir s'il y a des méthodes de transition prévues. Comment est-ce qu'on va... Si la catastrophe arrive par le manque de croissance dans le capitalisme qui est prévu pour la croissance. S'il n'y a pas de croissance, le capitalisme, ça s'effondre. Et je crois qu'aujourd'hui, on triche avec les chiffres. Je crois qu'il y a beaucoup moins de croissance que prévu. C'est de la triche. Alors, si la transition arrive par l'effondrement du capitalisme, comment est-ce qu'on agit pour faire autre chose?
Vous n'avez pas du tout envisagé le problème de la guerre et de la paix. Alors la guerre, quelle est son origine? Le réchauffement climatique, le capitalisme, la perfidie humaine, apparemment c'est une dimension qui n'apparaît pas du tout dans vos analyses.
Oui. Je voudrais que vous approfondissiez un petit peu ce que vous appelez croissance sélective, parce que je pense qu'on peut tous comprendre juste que le capitalisme, ça ne veut rien dire. On devrait parler de des capitalismes, parce qu'il y a des systèmes de capitalisme de développement, il y a une espèce de capitalisme financier qui nous échappe complètement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'une pensée éco-socialiste pourrait faire pour changer justement le capitalisme financier tel qu'il est prévu avec des algorithmes qui nous échappent complètement. Il n'y a même pas 1% de la population qui comprend ça. Voilà, je voudrais qu'on nous donne un peu vers les solutions. En vrai, j'ai des idées, mais je voudrais quand même vous écouter.
Bon, je vais répondre, je t'en prie. Bon, alors, voyons voir. Pas facile vos questions hein, de répondre. Hein. Je n'ai pas la réponse dans ma poche. Hein. Bon, mais je vais essayer. Alors, la bonne échelle, comment dire? Bon, d'abord, dans les luttes concrètes, il faut essayer de combiner au maximum les différentes échelles. C'est-à-dire, on a une lutte locale, par exemple, contre le gaz de schiste. En France, il y a des luttes analogues dans d'autres pays, en Europe, aux États-Unis, etc. On a intérêt à combiner ces luttes, à se mettre d'accord, à désigner le même ennemi, etc. Donc, il y a une dynamique qui se fait. Ou alors, pour citer un autre exemple, les luttes des agriculteurs contre les OGM. Il existe un réseau mondial de paysans qui s'appelle Via Campesina, hein, dont fait partie la Confédération Paysanne en France, etc. Des mouvements dans le monde entier qui se sont mis d'accord pour mener un combat commun sur plusieurs questions, souveraineté alimentaire, etc., et contre les OGM, notamment, hein, contre Monsanto, etc. Donc il y a une dynamique qui combine le local et le global dans les luttes actuelles. Bon, maintenant, si on envisage une transition à l'écosocialisme, hein, comment ça va se passer? Ça, je ne peux pas prévoir, évidemment. Pas prévoir. Idéalement, ça reste évidemment une hypothèse, ça serait qu'une transition à l'écosocialisme commence dans un ou plusieurs pays, qu'à partir d'un certain moment, ça prend une dimension continentale. Par exemple, l'Europe, ça me semble très très lointain. En Amérique latine, c'est peut-être un peu plus proche. Parce que déjà en Amérique latine, il y a au moins quelques gouvernements qui se réclament de l'écosocialisme. Leur pratique laisse à désirer. Enfin, au moins, ils posent ça comme objectif. Bon. Donc, on pourrait imaginer un jour que des gouvernements latino-américains essayent d'articuler leur pratique dans le sens d'une planification démocratique, écosocialiste, etc. Mais dans un premier moment, ça va se poser dans le cadre d'une société, d'un pays, évidemment. Et avec une décentralisation, c'est-à-dire beaucoup de décisions seront prises à l'échelle locale. La planification, ce n'est pas simplement quelque chose qui vient d'en haut. C'est concrètement, par exemple, à la place d'une grande, énorme centrale électrique, il y aura plusieurs unités produisant de l'électricité dispersées dans le territoire, gérées localement, etc. Donc, il y a une dynamique de décentralisation, d'autogestion, de gestion locale, mais dans le cadre d'une planification au niveau de toute la société. Bon. Dans l'espoir que, tôt ou tard, ça va s'étendre à d'autres pays, à tout un continent, et un jour, il y aura, sinon un socialisme mondial, au moins un rapport de force où l'ensemble des pays de la planète seront obligés à suivre certaines contraintes minimales. Ça, on peut imaginer. Il y a un rapport de force tel que l'ensemble des pays soit obligé à suivre un calendrier minimal de transformation, etc. Et tout ça, c'est un peu le plan sur la comète. Hein. Et tout ça, on ne peut pas prévoir. Simplement, on peut partir de l'idée qu'il faut commencer modestement avec des luttes concrètes, locales, avec une perspective internationaliste. Et il faut se donner comme objectif, à moyen terme, que dans un ou plusieurs pays, on puisse commencer un processus de transition, sachant qu'à terme, le problème est mondial, il est planétaire. On ne pourra pas faire l'écosocialisme dans un seul pays. Ça, c'est sûr. Bien. Mais on ne peut pas non plus attendre que tout le pays, ensemble, du monde entier, prenne ses chemins pour commencer à aller dans cette direction. Voilà. Alors, le camarade, vous avez tout à fait raison, hein, évidemment. On est contre le capitalisme. On a été, disons, depuis Marx, on lutte contre le capitalisme parce qu'il est fondé sur l'exploitation brutale des travailleurs, sur l'injustice sociale, sur l'inégalité et sur des pratiques impérialistes de domination des peuples qui conduisent à des guerres. Bon, pour toutes ces raisons, hein, je ne vais pas rappeler ça parce que bon, c'est le, disons, béaba de la tradition socialiste. Bon, évidemment, qu'on incorpore dans l'écosocialisme. Hein, l'écosocialisme est en continuité avec tous les arguments marxistes traditionnels contre le capitalisme. On veut supprimer le capitalisme pour toutes ces raisons qui ont à voir avec la justice sociale, la paix, la démocratie, etc. Bon. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'à toutes ces raisons-là traditionnelles qui existent dans le mouvement ouvrier socialiste depuis un siècle et demi, il faut ajouter une autre raison très importante qui est la destruction de l'environnement et la menace que ça représente pour la vie humaine. Il faut ajouter à la pile de raisons qu'on a d'être anticapitaliste une autre raison très importante qui est celle de l'écologie. Voilà ce que je voulais dire. Mais vous avez tout à fait raison de souligner qu'il faut se rappeler, disons, de l'argument classique, disons, de la tradition socialiste révolutionnaire. Je dirais simplement que l'hypothèse d'un capitalisme qui exploite le travail humain mais ne détruit pas l'environnement, c'est une hypothèse vide, ça n'existe pas. Le capitalisme ne peut pas fonctionner, c'est Marx qui le disait, le capitalisme ne peut pas fonctionner sans épuiser en même temps les travailleurs et la terre. C'est ça, c'est dans la nature du capitalisme de à la fois exploiter les travailleurs et exploiter l'environnement en les détruisant. Donc les deux sont inhérents à la logique du système capitaliste. Bien, les pics du pétrole. Bon, alors, je ne suis pas un spécialiste du pic du pétrole, hein, mais je constate une chose, que plus les sources connues de pétrole commencent petit à petit à s'épuiser, mais pas tout de suite, hein, je ne pense pas que c'est 2014, enfin, les capitalistes vont aller chercher le source de pétrole sale. Ça veut dire quoi, sale? Par exemple, le sable bitumineux du Canada. C'est des saints pétroles qu'on peut exploiter en dépensant des quantités astronomiques d'eau, des produits chimiques qu'on jette, etc. C'est des dégâts environnementaux gigantesques, avec des émissions de gaz aussi. Enfin, c'est un désastre. Mais ça donne du pétrole. Donc on le fait, le gouvernement du Canada le fait. Et d'autres gouvernements aussi. Bon, après, il y a le pétrole offshore, c'est-à-dire en haute mer. Dangereux. Dangereux parce que on a vu le golfe du Mexique, ça a explosé et bon, là, ça a inondé la mer de pétrole, les plages du Mexique, un désastre. Un désastre. Mais maintenant, de plus en plus, les gouvernements sont en train d'aller chercher le pétrole offshore. C'est-à-dire la soif de pétrole capitaliste, c'est quelque chose. C'est, Marx comparait le capitaliste avec un vampire, hein, qui a soif de sang. Et c'était le sang du travailleur. C'est là qu'il faut ajouter le pétrole. Le capitalisme a soif de pétrole. Et pour obtenir le pétrole, il a trait à n'importe quelle affaire, hein, quels que soient les dangers écologiques, humains, etc., pour avoir du pétrole. Donc ils vont continuer à exploiter le pétrole sale, les sources non conventionnelles, c'est un euphémisme, etc. Donc je crains qu'on aura encore le pétrole pour le temps. Et par-dessus le marché, il y a le charbon. Alors, là, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais les chiffres que j'ai vus sur le charbon nous promettent que le charbon, pour plusieurs siècles.
Plusieurs siècles. C'est ce que j'ai vu. Pic de production 2040.
Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu 200 années. Mais je ne suis pas un spécialiste. Franchement, je ne m'engage pas dans un débat des chiffres. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas combien, mais bien. Donc, je crains qu'on ne peut pas se fier ni au pic du pétrole, ni au pic du charbon, etc. Ça sera trop tard. Les jours où il n'y aura plus de pétrole, plus de charbon, le changement climatique sera déjà installé et irréversible. Parce qu'une fois que ça se déclenche, ça devient irréversible. Donc il faut qu'on arrête, hein, la consommation. On réduit dramatiquement, et à terme, on arrête la consommation des énergies fossiles. On ne peut pas attendre que les différents pics résolvent le problème. Non. Dans 40 ans, ça sera trop tard. C'est ce qu'ils disent les climatologues. Donc, on ne peut pas. Et autre chose, supposons qu'il n'y a plus de pétrole, etc., les capitalistes trouveront autre chose. Par exemple, les centrales nucléaires sont prêtes à multiplier de milliers de centrales nucléaires partout, tous les risques que ça suppose, à condition de faire le système fonctionner, hein, de façon profitable et compétitive. Hein, bon. Donc, il ne faut pas croire que le capitalisme va s'effondrer. Malheureusement, non. Il y a Walter Benjamin qui disait quelque chose que je trouve très juste. Le capitalisme ne va jamais mourir de mort naturelle, hein, que ce soit pour manque d'énergie ou crise économique, etc. C'est-à-dire, si on veut se débarrasser du capitalisme, il faut le éliminer, hein, par une action historique des classes opprimées, etc., une action politique. Il ne va pas mourir de mort naturelle, malheureusement. Ça serait bien, si on pouvait attendre qu'il s'écroule, malheureusement, ça n'arrivera pas. Bien, la guerre, bon, effectivement, je n'ai pas parlé de la guerre, mais je pense que la guerre, je ne peux pas faire une analyse maintenant des ressources de la guerre, je pense que ça a à voir avec le capitalisme, avec l'impérialisme, avec le colonialisme, et aussi avec les sociétés post-capitalistes bureaucratiques, dans une large mesure l'imitation du capitalisme. Bon, malheureusement, là aussi, on a vu des guerres. Mais bon, c'est un sujet trop vaste que je ne peux pas analyser, mais qui mérite effectivement un jour une conférence. Je pense que vous devez inviter quelqu'un de plus qualifié que moi pour vous parler. Alors, le capitalisme financier. Bon, effectivement, nous vivons une époque où le capitalisme le plus parasitaire et les plus irrationnels est en train de dominer le système. C'est le capitalisme financier spéculatif, hein, des fonds des investissements, de hedge funds, des fonds vampires, etc., des spéculateurs. Bon, c'est eux qui donnent les tons, c'est eux qui imposent leur dynamique au système, c'est eux qui sont responsables de la nouvelle crise économique. C'est évident. Donc, c'est juste de cibler hein, ces capitalismes financiers spéculateurs par une série de mesures élémentaires. Par exemple, la taxe Tobin, ce n'est pas la révolution, c'est une petite taxe sur le capital spéculatif financier visant un peu à réduire cette folie de la spéculation financière. Bon, c'est un exemple. Parmi d'autres, il faudrait d'autres impôts, donc sur le capital financier, des mesures de contrôle, etc. Bon, donc tout ça, je pense que c'est juste et il faut mener le combat pour ce type de mesures. Mais en dernière analyse, même si on réduisait les pouvoirs du capital financier, bon, les capitalistes ne peuvent pas fonctionner sans une certaine place du capital financier, des banques, bon, ça fait partie de la logique du système. Et de toute façon, ce n'est pas simplement le capitalisme financier qui est notre adversaire, c'est tout le système capitaliste qui est fondé sur la justice sociale, l'exploitation, l'impérialisme et la destruction de l'environnement. C'est l'ensemble du capitalisme financier, industriel, commercial, etc., etc., agricole, bon, les systèmes en tant que tel qui est profondément injuste, inégalitaire, belliciste et destructeur de l'environnement. Évidemment, la forme financière est la plus absurde, la plus irrationnelle, mais c'est pas parce qu'on a réussi, disons, à réduire le pouvoir du capital financier et des banques qu'on aura résolu le problème. Et tout d'abord, le problème de la crise écologique qui demande une transformation radicale de tous les systèmes, hein, pas simplement un contrôle de la finance. Mais ça n'empêche pas, comme je disais, de se battre dès aujourd'hui pour des mesures concrètes qui visent disons, la spéculation financière. C'est évident, c'est quelque chose de profondément légitime. Voilà. C'est voilà. Encore. Il ne faut pas épuiser non plus ni les publics ni l'orateur.
Dans ce que vous avez écrit, vous avez donc parlé de socialisme. Or, nous avons vécu au XXe siècle une époque dans laquelle on a parlé de socialisme réel. Vous l'avez qualifié, vous, de socialisme bureaucratique, dans lequel vous avez opposé un socialisme démocratique. Si on se réclame de nos jours du socialisme, je pense qu'on ne peut pas faire l'étude un peu plus approfondie. Je pense que ce n'est pas... pas vous accuser de simplisme, c'est pas ce que je veux dire. Je pense bien entendu que vous avez dû creuser la question. Cependant, il y a une des questions importantes à savoir là-dessus, c'est dans votre socialisme, j'ai bien compris la dimension verte écologique dont vous parlez, je rejoins le camarade sur la notion de remplacement du capitalisme comme destructeur avant tout des forces productives. Dans ce socialisme dont vous parlez, quelle place laissez-vous au marché? Quelle combinaison y a-t-il entre les différents acteurs économiques qui peuvent être la planification, le marché et la gestion de ce qu'on appelle les communs? La deuxième interrogation porte sur le capitalisme non plus comme système de production, mais comme système de domination d'une classe sur une autre. Parce que vous dites qu'il est absolument impossible de concevoir un capitalisme sans détruire la planète. Mais derrière le capitalisme, derrière l'exploitation des gens, on voit très bien que ces personnes ont construit un système à leur bénéfice. On voit très bien que le capitalisme du XXe siècle n'est pas celui exactement de Marx. C'est en quoi le capitalisme et les gens qui sont derrière ont été capables d'adapter leur système de domination par rapport à la concurrence du socialisme réel, par rapport à la situation locale des rapports sociaux, la lutte des classes, qui a mené donc à un capitalisme différent au sein du XXe siècle qu'il était au temps de Marx. Donc si on voit derrière le capitalisme la gestion, tout ce que vous dites sur l'aller vers l'abîme, ils sont, je pense, tout aussi conscients que nous. Et que si jamais cette volonté d'aller vers l'abîme peut remettre en cause leur domination, ils feront ce qu'il faut pour. À chaque fois, depuis que je suis venu en politique, j'ai toujours vu que les personnes que nous avons face de nous ont toujours eu une intelligence, ont toujours eu certains coups d'avance. On a dû comprendre, des fois, plusieurs décennies après, quels étaient véritablement leurs projets, quelles étaient véritablement leurs actions. Donc, je pense que, pour ma part, il y a un désaccord avec nous sur le fait qu'ils ne puissent pas trouver une solution qui nous enlèverait ce côté de la destruction de la planète. Pour rebondir, alors que ce qui ne lâcheront pas, c'est l'exploitation. C'est cet élément. Et je rebondis sur la question qui a été dite au fond. Vous parlez d'une révolution. La révolution, justement, c'est aussi une manière de renverser l'ordre des dominations et de pouvoir faire que ceux qui étaient exploités, la dictature de la bourgeoisie, c'est ce que dit Marx, pour remplacer par la dictature du prolétariat, même si les termes sont impropres par rapport à maintenant. Mais il y avait bien l'idée que l'on devait remplacer une domination par une autre. Donc, pour avoir cette révolution, vous allez énoncer une doctrine. Comment cette doctrine, vous l'avez dit dans les luttes, est-ce que vous pensez simplement que ce n'est que par des luttes, vous avez parlé du gaz de schiste, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres luttes, d'autres objectifs politiques importants qui sont dans l'écosocialisme? J'en prendrai un tout simple, la socialisation des banques, qui sont un des grands moyens de la production, qui peut nous permettre justement de ramener vers le changement souhaitable, vers la révolution, vers tout ce que l'on a à lui dire, un nombre important de gens qui auraient tout à y gagner.
Moi, je dirais quelque chose de simple, une perception. Votre discours, pour moi, véhicule une terminologie qui me semble complètement passéiste, éculée. Et je me demande justement, dans l'éco-socialisme, pardonnez-moi, quel discours novateur par rapport au discours de René Dumont? Qu'est-ce qu'à part des termes qui me semblent complètement planifiés, sur la moi j'ai l'impression qu'on vit dans un monde complètement terminé, qu'est-ce que ça apporte de neuf dans nos enjeux extrêmement forts, importants, dans l'avenir proche? Et là, sincèrement, j'ai l'impression que dans tous les faits que vous avez évoqués, c'est des choses que Dumont avait bien évidemment évoquées, et je n'ai pas vu l'ombre d'une idée, l'ombre d'une ébauche de solution. Je lis quoi de novateur? Je ne sais pas voir, ou je n'ai pas bien compris.
Une remarque humoristique pour détendre la notion. Une remarque humoristique pour détendre la notion.
Merci.
j'ai remarqué ce que vous avez dit, que finalement il y a une issue pour les 1%, enfin les capitalistes justement, ils iraient sur la planète rouge. C'est une ironie de l'histoire si ça arrive un jour. Ils iraient se réfugier sur la planète rouge.
Ils vont tomber ceux des communistes là-bas.
Déjà c'était pour donner peut-être un autre élément, mais il y a plein de raisons pour lesquelles le capitalisme ne pourrait pas de toute façon dans aucun cas pour avoir un capitalisme qui respecte l'environnement. Mais il y a un élément qui est très simple, qui est le fait que les capitalistes individuellement cherchent à maximiser leur profit, et que le capitalisme, c'est pas seulement l'exploitation des travailleurs, mais c'est aussi la rente issue de la propriété foncière, la propriété privée des ressources. Et celui qui a le terrain sous lequel il y a du pétrole, je pense qu'il va falloir, à l'intérieur du système capitaliste, il va falloir m'expliquer comment il va renoncer à exploiter son pétrole et en tirer un profit énorme. Il y a un moment donné, il y a de toute façon la propriété foncière et la rente issue de la propriété de la nature qui fait que il y a une contradiction et qu'on ne peut pas résoudre ce problème-là sans poser le problème de la propriété privée de ces ressources naturelles et la remettre en cause et vouloir exproprier ces propriétaires capitalistes qui détiennent ces ressources naturelles et qui ont un intérêt à les exploiter, évidemment. Et dans le même ordre d'idée sur la notion du progrès et la critique, désolé, mais effectivement, qui a été faite chez Marx et Engels, donc ça a beau être vieux, mais la critique du progrès, justement, ce qu'il disait, et que tu n'as pas cité, sur la question de l'agriculture, les progrès de l'agriculture productiviste qui épuisent les sols de plus en plus, il disait qu'il épuise les sols et les travailleurs. Et en fait, et ça rejoint un peu la question, c'est que le capitalisme, c'est un système global qui, c'est sûr, on ne s'oppose pas juste parce qu'il épuise la nature, ni parce qu'il épuise les travailleurs, Mais l'explication qu'il donnait, c'est que le progrès, il n'y a pas un progrès technologique absolu, c'est un progrès qui est socialement déterminé et qui se fait au profit de la classe dominante, et donc pour augmenter sa domination. Et il y a des exemples tout bêtes, mais par exemple, le photovoltaïque était connu au 19e, bien avant pour se mettre à. Le principe photovoltaïque, bien avant pour se mettre à passer au charbon. Mais d'un autre côté, le photovoltaïque, c'est beaucoup plus dur pour en tirer un profit pour une appropriation privée. Donc pour les capitalistes, c'était bien évidemment beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rentable d'aller exploiter le charbon à l'époque. Ce n'était pas un problème de connaissance technique, mais bien de système social, économique à l'époque. Mais après, le gros problème qu'on a par rapport à toutes ces questions, c'est justement, et ça a été un peu posé, c'est la question de la transition. Parce qu'on voit un peu l'idée d'une société sociale, éco-socialiste, donc avec une planification, pas dans le sens d'une planification à la soviétique, une planification démocratique à tous les niveaux par les travailleurs auto-organisés eux-mêmes, etc. Donc ça je pense que ça rentre dans la critique de la question démocratique et de ce qui a pu se passer dans les régimes de l'Est. Mais la grosse question, en fait, c'est qui va contrôler cette transition et sur quelle force sociale elle s'appuie. C'est aussi quand même un des appuis de l'éco-socialisme qui se réclame quand même de la tradition marxiste et de la lutte des classes, de dire que la force sociale sur laquelle on peut s'appuyer, c'est celle des travailleurs, et c'est eux qui peuvent, à un moment donné, renverser le capitalisme et qui peuvent prendre en main les choix de production, leurs propres choix de production pour les besoins sociaux et dans le respect de l'environnement. Mais très concrètement, je pense que c'est plus là-dessus, par exemple, qu'on peut avoir des divergences avec des courants, par exemple, de la décroissance. C'est, par exemple, ça va se poser sur des questions tout bêtes, mais s'il y a des licenciements dans l'automobile, dans les raffineries, tout ça, comment est-ce qu'on pose le problème? Et d'un point de vue éco-socialiste, je pense que la manière dont on pose le problème, c'est que ce n'est pas les salariés qui choisissent la finalité de leur production. Aujourd'hui, dans le système capitaliste, c'est les capitalistes qui leur imposent. Les salariés, c'est le principe aussi du capitalisme, ils vendent leur force de travail à des capitalistes pour vivre, parce qu'il faut bien avoir un travail. Ce n'est pas eux qui le décident. Ben, la question qui se pose dans ces cas-là, c'est de dire, on refuse ces licenciements, même si leurs productions sont nuisibles, on refuse leurs licenciements, mais dans le même temps, on pense qu'il faut poser la question de comment est-ce qu'on peut reconvertir et comment est-ce que les travailleurs eux-mêmes, par la dynamique de leur lutte, peuvent reconvertir ces productions, poser la question de l'utilité sociale de ce qu'ils produisent. Donc il y a cet aspect-là, et il y a l'aspect inverse qui est, sur les luttes écologiques, si on pense que la force sociale, on se confronte à des intérêts capitalistes, la force sociale, c'est quand même les travailleurs, ça se joue quand même dans la lutte des classes, c'est-à-dire que les questions écologiques se résolvent aussi sur le terrain des luttes sociales, et notamment, par exemple, sur les questions du nucléaire, sur des questions comme ça veut dire qu'un des enjeux, c'est pas de mener ces luttes-là extérieurement contre les salariés de ces secteurs-là, mais arriver à faire que ce soit les salariés, ce qui est très compliqué, après c'est de la théorie, mais c'est très compliqué pour le mettre en pratique, mais ça reste quand même des principes. C'est comment est-ce que les salariés de ces secteurs-là peuvent eux-mêmes mener la lutte, parce que c'est la seule manière de créer un rapport de force qui permette de gagner en fait sur ces questions écologiques. Il y a ce qu'on appelle l'écologie des pauvres, souvent, qui est justement les luttes écologiques victorieuses dans le monde. Quand on regarde, c'est essentiellement des luttes qui sont avant tout des luttes sociales, qui sont avant tout dans des pays du Sud, en Inde, en Amérique latine. Michael peut très bien parler, je pense, de ce qui a pu se passer comme lutte en Amérique latine. Donc c'est un élément qui, à mon avis, est central dans la vision qu'on peut avoir de comment on lutte sur les questions écologiques.
Moi, je suis un spectateur, mais je n'ai pas eu votre livre, je ne vais pas vous prononcer pour ou contre le capitalisme, mais pour ou contre l'éco-socialisme. Je vois la transition en marche autour de moi, je vois les indignés, je vois la coopérative intégrale espagnole, je vois les colibris, je vois plein d'initiatives locales qui restent malgré tout limitées. Je vois aussi le peuple qui qui est atteint par ce capitalisme qu'il a dans la peau parce qu'il a été éduqué comme ça. Et je vois la bourgeoisie qui maintient ce statu quo parce qu'il est profitable au final à quand même beaucoup de personnes. Et donc le point sur lequel j'ai l'impression que vous n'avez pas trop insisté, c'est la démocratie. Aujourd'hui, on a un paysage politique qui est montpellier, mais assez limité à mon sens. Et donc je voulais savoir si vous pouvez développer un petit peu ce côté, comment mettre en place votre doctrine des consultés, le point de vue politique, chose qui peut s'étendre après à d'autres.
Je vais peut-être paraphraser une idée qui me semble était implicite, sous-jacente aux échanges qu'il y a eu, mais moi, on m'a toujours dit que le capitalisme se nourrissait de ses contradictions. Donc, par exemple, au niveau de la transition, quand vous avez parlé de développer les énergies renouvelables, est-ce que ça ne va pas être instrumentalisé par le capitalisme pour le renforcer d'autant plus? Du coup, je viens sans bagage. Vous avez rien entendu?
Si, si.
Je viens sans bagage sur l'écosocialisme ce soir, j'en avais jamais entendu parler, mais je me demande du coup, est-ce que ça va plus loin que la décroissance, en organisant un nouveau mode de vie, comme vous l'avez peut-être dit, et dans ce cas-là, comment ça, ces mouvements, ces alternatives ne vont pas être récupérées pour renforcer le capitalisme, sans forcément être récupérées au sens... connu du terme, mais voilà, je
ne
sais pas comment ça
se manifeste. Bon, Bon, alors, la première question, c'est en fait un complexe de plusieurs questions. Alors, les socialismes réels. Bon, ça fait un siècle que les marxistes discutent comment définir ces régimes. J'ai mis socialisme réel entre guillemets. Je pense qu'il est beaucoup plus réel que socialiste. Maintenant, il est moins réel que socialiste. Bon. Il y en a qui disent que c'était du capitalisme d'État, d'autres qui disent que c'était du collectivisme bureaucratique. Enfin, je ne sais pas. Hein, je ne vais pas proposer maintenant une définition. Mais en tout cas, du point de vue socialiste, enfin, c'était très loin du socialisme, au moins tel que Marx, fondateur du socialisme, le comprenait, qui était les pouvoirs démocratiques des travailleurs au niveau social, économique et politique. C'était très, très, très loin de ça. Bon. Maintenant, quelle est la place qui aurait les marchés, la planification et les communs dans l'écosocialisme, dans la transition à l'écosocialisme? Bon, comment dire, on part de l'idée que le vecteur central du processus de transition, c'est la planification démocratique et socialiste, mais évidemment, il y aura une place pour le marché. On ne va pas d'un jour à l'autre décréter la disparition du marché. Un marché qui est soumis, disons, à la logique de planification. Et il y aura un espace pour les communs, c'est-à-dire des choses qui sont gérées par des communautés, ou par la population locale, ou par les gens d'un quartier, etc., etc. Bon, la gestion des communs, qui n'est pas ni celle d'un pouvoir, ni celle du marché, etc. Donc, il y a différents modèles. Il y aura des coopératives, des AMAP, enfin, il y a une multiplicité de formes d'organisation et de production collective, démocratique, hein, où on ne peut pas maintenant décider a priori quel sera le pourcentage entre la planification, le marché, le commun, etc. Simplement, on a cette idée qu'il y a la place du capitalisme, disons la logique du marché capitaliste et de la propriété privée, il y aura ces différentes formes d'organisation démocratique collective qui sont la planification, le commun, la coopérative, etc. Mettons la place exacte. Les proportions, ça dépendra des expériences, des pays, des étapes, si c'est au début du processus ou plus tard, etc. Maintenant, vous dites avec raison que le capitalisme, c'est une domination des classes, pas quelque chose est simplement anonyme, c'est il y a le pouvoir des classes, et évidemment, la révolution s'est affrontée ces pouvoirs des classes. Tout à fait d'accord, ça c'est le classique, disons le béaba du marxisme, c'est la lutte des classes et l'affrontement avec la classe dominante, les 1% qu'on dit nos amis de Occupy Wall Street. J'ajouterais juste une chose que Marx dit aussi dans Le Capital, qu'au fond, les capitalistes sont des fonctionnaires du capital. Et le capital a une logique qui finalement les capitalistes eux-mêmes n'arrivent plus à contrôler. C'est-à-dire, le capitalisme, c'est un système aveugle, irrationnel, absurde, que les capitalistes eux-mêmes sont dépassés et ils sont obligés à suivre, disons, la dynamique interne du système. C'est ça qui explique les crises. Les crises, ce n'est pas que les capitalistes ont décidé de provoquer une crise, c'est le système lui-même, avec son irrationalité, provoque périodiquement des crises, et les capitalistes sont pris dans la tempête, certains perdent sont acculés à la faillite, etc. Donc il y a un système impersonnel, anonyme, qui échappe à tout contrôle, y compris celui des capitalistes. Mais évidemment, les capitalistes sont, en tant que classe dominante, intéressés à maintenir ce système. C'est dans ce sens-là qu'est la lutte contre le capitalisme, c'est une lutte contre la classe des capitalistes, la classe dominante, c'est évident. Et tout à fait d'accord avec une mesure comme la socialisation des banques. C'est les types même de mesures qu'il faut essayer d'imposer tout de suite. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va aller vers l'éco-socialisme ? Ça ne va pas tomber comme ça du ciel, tout près. C'est par deux mesures qui vont affronter la logique du capital. Et une de ces mesures, c'est effectivement la socialisation du crédit. Arracher le crédit de la main des banquiers. Bon, ça a été fait, même par des gouvernements réformistes, ce n'est pas la révolution communiste. Donc, c'est des mesures qu'on a fait transitoires, c'est des transitions vers une autre société. Et une, c'est évidemment la socialisation des banques. Maintenant, est-ce que les capitalistes vont trouver toujours une solution? D'une certaine façon, oui. Je l'ai dit, le capitalisme ne va pas mourir de mort naturelle. Ce n'est pas un mouvement révolutionnaire contre le système et contre la classe dominante. Ils vont trouver une solution qui sera catastrophique. C'est catastrophique, c'est-à-dire... Bon, la solution, par exemple, de remplacer le pétrole par l'énergie nucléaire, c'est un désastre pour l'humanité. Mais ils sont capables de le faire, etc. Donc, comme je disais, on ne peut pas attendre que le système va s'écrouler tout seul. Et on peut arriver à une situation, un cauchemar, où nous sommes en pleine catastrophe écologique, terrible. Les grandes villes de la civilisation humaine inondées, de millions de réfugiés qui essaient d'échapper à la montée des eaux et cherchent à se réfugier dans les villes, dans les montagnes, etc. Et les capitalistes qui font des profits avec ça, en utilisant ça pour augmenter les prix du loyer, je ne sais pas. On peut imaginer les capitalistes faisant profit de toutes les catastrophes. Si on les laisse, ils vont continuer, bien sûr. Donc, on peut leur faire confiance qu'ils vont toujours agir en fonction de leur intérêt et dans le cadre du système. Maintenant, ma terminologie est passéiste, j'avais dit pour.
Écoutez,
non, c'est votre droit. Non, mais c'est juste, d'une certaine façon, vous avez raison. On n'est pas en train d'inventer quelque chose de nouveau. On n'a pas inventé la roue. L'écosocialisme, c'est une idée qui circule depuis quelques dizaines d'années. Vous avez cité René Dumont, mais beaucoup d'autres. Il y a André Gorz, il y a Jean-Paul Deliage en France. Il y a Frieda Otto Wolf en Allemagne. Il y a James O'Connor et Barry Common aux États-Unis, etc. Manuel Sacristán en Espagne, Raymond Williams en Angleterre. Il y a toute une série de gens qui, depuis les années 70-80, commencent à réfléchir à cette idée. Comment on associe l'écologie et l'écosystème. Donc, c'est une idée qui circule depuis pas mal de temps et qui, nous sommes quelques-uns à essayer de la mettre en forme en fonction de débats, etc. Mais c'est dans la continuité de tout ce travail j'ai fait déjà depuis quelques dizaines d'années. Donc notre problème, ce n'est pas de trouver une nouveauté sensationnelle, sans la pensée. Notre objectif, c'est de proposer des solutions adaptées aux problèmes d'aujourd'hui, à la crise économique, à la crise écologique, aux injustices et absurdités du capitalisme. C'est ça, le problème, c'est savoir si c'est plus nouveau ou moins nouveau. Ce n'est pas le problème. Et malheureusement, je ne crois pas que c'est obsolète et passéiste, parce que comme le capitalisme continue à exister et comme il provoque des désastres écologiques grandissants, bon, cette problématique est à l'ordre du jour. Si on me prouve que le capitalisme est devenu civilisé, domestiqué, respectueux de l'environnement et de la justice sociale, je dirais, bon, toutes ces idées sont dépassées. Mais comme ce n'est pas le cas, je pense que ces idées, malheureusement, restent actuelles. Bien, je continue. Alors, tout ce que vous avez dit, je trouvais très bien, je suis tout à fait d'accord. Juste un petit bémol. Bon, évidemment, les travailleurs sont le moteur le plus important de la lutte pour le changement, hein, pour l'écosocialisme. Mais bon, il ne faut pas prendre travailleurs dans le sens étroit, disons, des ouvriers d'industrie, etc. Il faut prendre ça dans un sens beaucoup plus large. Par exemple, prenons le mouvement en Amérique latine, que vous avez mentionné. Disons, les groupes sociaux les plus dynamiques aujourd'hui en Amérique latine, dans la lutte contre les multinationales, des luttes sociales et écologiques en même temps, c'est des communautés indigènes. Les communautés indigènes, ce n'est pas des ouvriers de l'industrie, c'est même, peut-être même pas des salariés, hein. C'est des communautés indigènes, c'est comme ça. Ce n'était pas prévu ni par Marx ni par Engels. Mais c'est eux qui sont à l'avant-garde de lutte en Amérique latine. Donc, il faut qu'on ait une vision large du sujet de la transformation. Et à la limite, il faut adopter le mot d'ordre de nos amis de Occupy Wall Street. Nous sommes les 99%, ceux qui ont intérêt à en finir avec le capitalisme. Nous sommes 99%, il y a 1% des profiteurs, des parasites, d'oligarches qui ont intérêt à maintenir ces systèmes maudits, injustes et destructeurs. Voilà, je pense qu'il faut arriver à cette conclusion. Alors, je ne vais pas parler de démocratie. Bon, alors, je reviens sur l'idée d'un processus de transformation démocratique, c'est-à-dire l'écosocialisme, ça ne peut pas être décrété d'en haut, pour commencer. Hein. Ce n'est pas une avant-garde illustrée qui va prendre le pouvoir, hein, décréter l'écosocialisme. Ça ne peut résulter que d'une volonté majoritaire, hein, la grande majorité de la population, idéalement de 99%, mais si ce n'est même pas, c'est pas ça, tant pis, mais de la grande majorité de la population qui veut une transformation de ce type d'écosystème. Sinon, ça n'arrivera pas. Donc, ça ne peut être réalisé que de façon démocratique. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confrontement, hein, parfois même probablement violent. Mais enfin, il faut que ce soit la volonté démocratique de la majorité. Et ensuite, la gestion du processus de transition doit être démocratique. C'est-à-dire, déjà au niveau local, tout ce qui concerne les quartiers doit être décidé par la population du quartier. Ce qui concerne la gestion interne d'un hôpital, d'une école, ou même d'une usine, etc., c'est les gens eux-mêmes qui doivent les décider, etc. Et au niveau de la société dans son ensemble, comme je disais, les grandes décisions, les plus importantes, bon, c'était comme exemple la suppression des centrales électrique, nucléaire ou au charbon, et c'est une décision de toute la société et décision par une espèce de démocratie directe, je ne sais pas, sous forme des référendums par exemple, et voilà, donc c'est une forme de démocratie directe. Et ensuite, d'autres décisions de moins importance peuvent être laissées à des délégués élus, hein, une forme de peu importe, on peut discuter, des délégués démocratiquement élus qui vont s'occuper de gérer des problèmes plus de détails, évidemment, des grandes lignes disons, de la gestion économique, sociale, etc. C'est comme ça que je vois la démocratie à tous les niveaux, au niveau local, au niveau d'une nation et à un autre moment, on l'espère, au niveau continental et peut-être un jour au niveau international. Bien. Ce qui implique évidemment la liberté d'expression, la liberté d'organisation, des points de vue contradictoires qui s'affrontent. Évidemment, on ne peut pas avoir démocratie quand il y a seulement le point de vue d'un courant qui s'impose et aussi les autres. Ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est quand il y a discussion, pluralisme, différents points de vue qui s'affrontent. Les gens qui vont dire non, il faut maintenir le nucléaire, c'est très important. Ok, on va les écouter et les gens vont trancher. Alors comment nos propositions et initiatives, comment faire qu'elles ne soient pas récupérées par les capitalistes? Non, c'est une bonne question. Et évidemment, les capitalistes sont passés maîtres dans l'art d'exploiter et récupérer tout. C'est-à-dire, on propose des énergies renouvelables, formidable. On va faire une affaire, on va construire quelques éoliennes, etc. Un parc d'éoliennes, on va faire payer très cher, etc. Bon, on va faire du profit avec ça. Les capitalistes font du profit avec tout, tout ce qu'on peut faire. Et on dit même que le dernier capitaliste va vendre la corde avec laquelle on va le prendre. Ça, c'est une image. Bien. Donc, il faut, disons, formuler nos demandes, nos exigences de telle forme qu'elles vont à l'encontre de la logique du système. Bon, quand on propose par exemple de socialiser les banques, que le crédit doit être un service public, les capitalistes ont beaucoup de mal à récupérer ça. Et même quand on fait une demande immédiate concrète, qui ne met pas en question le système comme contre les gaz de schiste par exemple, ou même contre Notre-Dame-des-Landes, bon, si on dit arrêter Notre-Dame-des-Landes, bon, ça ne fait pas le système s'écrouler. Hein, mais c'est une mauvaise affaire pour Vinci. Donc, il va se battre par tous les moyens pour empêcher ça. Mais si on réussit à gagner, Vinci va se débrouiller pour faire autre chose. Bon, ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais il y a une autre chose. Dans la logique de lutte écosociale, chaque victoire qu'on obtient, on pose immédiatement une demande plus élevée. Je vais donner un exemple. Les systèmes de transport public. Par exemple, à Paris, c'est absurde, parce que les gens qui habitent en banlieue payent plus cher pour le métro que ceux qui habitent à Paris. Sur la logique, c'est qu'ils habitent plus loin, mais ils sont plus pauvres, c'est pour ça qu'ils habitent en banlieue. Ils doivent payer plus cher. Donc, il y a une demande qui est tarif unique. Demande juste. Il faut la soutenir. Pour le tarif unique. Dès qu'on obtient le tarif unique, on ne s'arrête pas. Il faut poser une autre demande plus élevée, tarif gratuit pour le transport. Transport public gratuit, qui sont une mesure sociale, tout le monde, les pauvres ne paieront pas, et une mesure écologique, parce que si les transports publics sont gratuits, les gens vont moins utiliser leur voiture, hein, etc. Donc, voilà, l'idée c'est ça, hein. Lutter pour des revendications concrètes et chaque fois qu'on obtient une victoire, passer à la revendication au niveau supérieur, dans une espèce de dynamique, tôt ou tard, aboutit à un affrontement avec le système. Et c'est ça qu'on veut. Voilà.
Merci. Bien.
L'orateur est épuisé.
Ouais.
Une petite remarque. Je trouve que vous nous avez donné une belle leçon de recyclage, parce que pendant des années, depuis les années 70, je militais dans l'écologie politique, et un des principaux adversaires, hélas, c'était les marxistes. Et de vous entendre maintenant, ce soir, refaire tout le programme de l'écologie politique au nom du marxisme, je trouve que c'est une belle leçon de recyclage. Merci.
Ok, merci Michael.
Merci Michael, merci à vous tous. Quelques informations sur EP, je vais juste puisque rebondir sur Notre-Dame-des-Landes. Le 9 avril, Nicolas de la Casinière, qui est journaliste à Nantes, qui est aussi une étudiante en train de langue, vient d'écrire un bouquin sur, justement sur cette coutume nationale Vinci, et très documenté pour en comprendre un petit peu les partenariats publics-privés, les subventions et tout le fric qui se mettent dans les poches. Voilà, donc le 9 avril, ce sera le sujet. Après, le 18 mars, tu peux prendre le relais, Gilles, parce que j'ai pas tout en tête.
Le mois de mars, il est tout prochain rendez-vous de l'Université populaire. Ce sera au cinéma Utopia Venise. Le 18 mars, c'est un film qui s'appelle « Même rue sur la ville » qui va traiter de l'extrême droite. Et le débat sera animé en particulier par un ancien conseiller municipal de Micro, le conseiller municipal de Rochelle, qui aujourd'hui